Gloire à Dieu, nous arrivons à la fin, tristement, de notre livre de Job. À chaque fois que nous finissons un livre, c'est comme si nous quittons des amis, nous quittons un ami. Heureusement qu'on va se retrouver avec les Job au ciel. Voilà. Donc là, nous sommes à l'avant-dernière séance. Parce que nous n'allons pas tout finir aujourd'hui, mais nous ressentons déjà la tristesse de devoir quitter ce livre. Et nous en étions arrivés à Job 35, on avait fini le chapitre 35. À partir du chapitre 32, Elihu a commencé à parler, un dernier ami jeune a commencé à parler et on avait dit lors des dernières séances que son discours était beaucoup plus élaboré et nuancé. Même si c'est vrai que à la fin de tout, ça, il condamnait quand même Job tout simplement. Mais est-ce que nous nous disons que Job est irréprochable? Nous ne le disons pas. Nous disons tout simplement que même s'il y a eu des excès dans ses propos concernant Dieu, mais le fond de Job est bon. Et celui qui nous garantit cela, c'est Dieu lui-même, puisqu'il le dit au chapitre 1er. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. Ce n'est pas parce qu'un chrétien va nous dire dans un accès de colère, « Dieu ne m'aime pas », que nous allons lui dire « tu n'es pas un vrai chrétien ». Voilà, donc il faut que qu'on sache analyser la globalité des situations. Nous ne devons pas choisir la facilité de dire que Dieu a totalement raison, il ne se trompe pas, c'est toi le problème. Ça, c'est la facilité. La difficulté, c'est la compassion. D'accord, Dieu ne se trompe pas, il a toujours raison. Mais nous devons compatir au malheur des autres. Nous devons, comme le Seigneur lui-même le dit dans sa parole, pleurer avec ceux qui pleurent. Et donc quand les gens pleurent et qu'ils poussent des cris de lamentation, il peut y avoir des écarts, il peut y avoir des excès. Mais ce n'est pas une raison pour dire qu'ils ne sont pas de Dieu ou qu'ils ont abandonné Dieu. Ce sont des erreurs. Et avant d'appuyer sur ces erreurs-là, nous leur devons de la compassion et de l'amour. Le Seigneur nous juge après être crucifié pour nous, s'être crucifié pour nous à la croix. Lui-même le dit dans Jean 3, 17, « Je ne suis pas venu condamner ». Voilà, il n'est pas venu condamner, il est venu d'abord sauver, mais un jour il jugera. Voilà. Vous savez, nous avons un exemple. L'exemple le plus frappant, c'est celui de Pierre. Pierre a quand même renié le Seigneur. Il a renié le Seigneur à 3 reprises. C'est beaucoup, hein? À 3 reprises. Et pourtant, le Seigneur lui refait entièrement confiance. Entièrement confiance. Pour lui dire, paix mes brebis. Paix mes brebis, le Seigneur n'a nullement jugé Pierre. Au fait, Pierre s'est jugé tout seul par ses fautes. Lui-même a réalisé qu'il n'était pas mature, qu'il était impulsif. De lui-même, il a constaté. Alors, quand quelqu'un lui-même voit bien que c'est pas bon ce qu'il a fait, pourquoi venir taper encore dessus pour dire, mais voilà, tu es un faux chrétien. T'as dit telle chose sur Dieu, non. Même si on doit reprocher ça à un frère, à une sœur, prenons la peine quand même de compatir au malheur, aux souffrances de la personne. Avant, à un moment donné, au moment propice de dire, mais quand même, telle phrase, ça a été une exagération de ta part contre le Seigneur. C'est bien de s'en repentir. Voilà. C'est la stratégie globale que nous insistons. Nous ne disons pas que Job est à 100% correct, nous disons, oui, il est intègre, comme Dieu le dit, il a un bon cœur, mais dans ses discours, il y a eu des excès. Et ça ne fait pas de lui, comme finalement Eliou tranche quand même en finalité, même si son discours est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus nuancé, mais il tranche quand même à la fin pour dire, non, 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 la faute est en toi, Job, t'as un problème, voilà. Et au lieu de, voilà, de voir la globalité de la situation, de compatir et de dire, écoute, Job, ça fait mal, mais humilions-nous devant Dieu. Voilà, c'est ça quoi. Donc on peut dire ça à un chrétien, ça fait mal, tu viens de perdre ton fils, mais humilions-nous et demandons l'aide de Dieu. Mais au lieu de dire, oui, tu as perdu ton fils, mais tu vas le retrouver au ciel, c'est quoi ça? Tu n'es pas un vrai chrétien. Ça, ce n'est pas de la consolation. C'est ce que dans le livre de Job, on appelle les médecins de néant. Voilà, donc c'est, tu viens en médecin, mais tu agis plutôt en juge. Voilà, c'est au fait, c'est là où nous, c'est dans cette, on voulait exprimer cette nuance-là. Hein, voilà, que nous disons pas que Job soit irréprochable, mais toutefois, ses amis, ben, ils ont choisi la facilité de condamner tout simplement Job et non pas de compatir, de lutter. Vous savez, parfois, ça demande du temps pour convaincre certaines personnes. Non pas qu'ils soient forcément têtus hein, ou mauvais, mais le cas étant complexe, on doit aussi prendre la peine de traîner dans le temps avec certaines personnes. Je connais quelqu'un dans le corps du Christ, il avait surnommé les gens qui traînent, quand on s'occupe d'eux, hein, qui traînent à changer, il les avait surnommés... bouffe ministère, c'est pas bon. C'est-à-dire que c'est des gens qui te prennent ton temps. Et lui, elle, c'était une dame, elle les avait surnommés bouffe ministère. Voilà, il faut comprendre que certains cas, ça traîne. Ça traîne, c'est une réalité. Mais l'homme veut la facilité d'en finir très tôt et de dire non, 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 t'as un problème, t'as le péché, va bien vérifier, c'est tout. Voilà. Comme ça ne traîne pas. Non, c'est... prenons le temps parfois avec certaines personnes parce que il y a des cas qui sont difficiles. Disons-nous, si on n'a pas la puissance pour régler tout, mais on a au moins quand même l'amour et la compassion à exprimer à tous. Voilà. Donc tu arrives, tu es invité dans une maison, tu es invité quelque part pour trancher, pour aider, pour conseiller. Même quand la situation te dépasse, ne pense pas trop à la solution. À un moment donné, pense plus à qu'est-ce que tu peux donner comme dose d'amour pour changer le goût de l'atmosphère. À force de penser à résoudre le problème pour lequel on t'a fait venir, on finit par trancher rapidement et par condamner des gens parce qu'on veut résoudre le problème. La solution vient du Seigneur. Nous, ce qui est à notre portée, de sûr, c'est de manifester l'amour. Si Dieu nous fait grâce, qu'on puisse, par nos paroles de sagesse, de connaissance, régler tout de suite les problèmes, c'est la grâce de Dieu, nous le bénissons. Mais si nous sentons que nous sommes un peu dépassés côté puissance, côté solution, manifestons au moins l'amour. N'utilisons pas l'incapacité apparente, hein, parce que ça peut être aussi apparent. On peut penser qu'on ne contribue à rien, mais en réalité, ça, dans le monde invisible, ça agit. Voilà. Mais admettons qu'on se sente comme incapable de résoudre le problème pour lequel on nous a fait venir dans une famille, dans un couple, voilà, chez un enfant. Au moins, exprimons l'amour de Dieu, manifestons l'amour de Dieu, manifestons la parole de Dieu dans un esprit de compassion et d'aide. Et laissons à Dieu la rétribution et le jugement. Voilà, c'est l'introduction que je voulais faire avant de continuer sur les interventions d'Eliou. Donc Eliou va parler encore au chapitre 36 et 37. Donc nous allons l'écouter. Voilà.
Job, chapitre 36. Eliou continua et dit, « Attends un peu et je vais poursuivre. » car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de loin et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges. Mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. Et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres. Leurs transgressions, leur orgueil, il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne craignent pas Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause.
Voilà l'idée quand même d'Élieu. Hein. Donc la première partie est parfaite. Donc il explique que Dieu ne laisse pas vivre le méchant. Il est puissant par la force de son intelligence. Tout ça est vrai. Et il dit, il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Dieu soutient toujours les justes. Ça, c'est vrai aussi, c'est vrai. Il les place sur le trône avec les rois. C'est vrai. Il les y fait asseoir pour toujours. C'est vrai. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il dit, mais malgré ça, quand les justes tombent, Dieu leur cite leurs mauvaises œuvres. Hein, il les appelle il les avertit, hein, au verset 10, pour leur instruction. Donc, sous-entendu, Job, même si tu étais juste, reconnais que voilà ce qui arrive certainement, que tu es tombé quand même. Et Dieu t'avertit pour ton instruction, il permet le malheur, il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Donc, s'ils écoutent et se soumettent, bon, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Donc, Job, tu n'as qu'à écouter et te soumettre. Certainement, il y a un péché, certainement, il y a quelque chose. Et on voit même son introduction quand il dit « Je prendrai, verset 3, je prendrai mes raisons de haut et je prouverai la justice de mon Créateur. » Vous savez, il y a des phrases qui sont valables quand on parle à un athée. On parle à un incroyant ou bien à un faux croyant, à un croyant d'une fausse religion. Mais quand on parle à un frère, c'est comme si on est dans la même famille, on prend position pour le papa contre ton frère ou contre ta soeur. Non, c'est la même famille. Il n'y a pas de position de parti pris. On ne peut pas choisir. Il n'y a pas comme deux parties qui se confrontent. Il y a des troubles, c'est tout. Et souvent, il y en a pour des questions égoïstes ou bien de facilité. Il choisit le plus fort. Celui qui a l'argent, celui qui paye les choses, celui qui... Ah non, moi je suis d'accord avec papa. Mais en réalité, c'est parce que c'est lui qui sort l'argent, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Et le truc, ce n'est pas un conflit entre des gens ennemis. C'est les gens de la même famille. Job est un serviteur de Dieu. Tu ne parles pas comme si Job était en opposition, en rivalité avec Dieu, et donc toi tu prends le parti de Dieu. Non, bien-aimé, quand nous assistons ou bien nous débattons avec certains frères et sœurs, n'oublions pas que ce sont nos frères et que ce sont des enfants de Dieu aussi. Ne les mettons pas par nos discours comme en opposition à Dieu. C'est nous qui décidons ça. Dieu ne les voit pas comme ça. Dieu voit des enfants qui crient. Combien de fois nous, nos propres enfants, nous ont accusé des choses? Est-ce qu'ils cessaient de nous aimer pour autant? Parfois, ils nous ont accusés de fausses choses parce que leur compréhension d'enfant les amenait à ça. Mais ils nous aiment. Nous aussi, on les aime. Il n'y a pas comme deux camps qui s'affrontent. Alors, quand Eliou parle comme ça, moi, je prendrai, je défendrai Dieu. Mais c'est comme si Job est en conflit. Non, bien-aimé, pesons les choses. Si on parle à un païen, à un athée, d'accord, on dit, nous, on va défendre le Seigneur. Mais on parle à un chrétien, on va défendre quelqu'un. Non, on va plutôt l'exhorter à s'humilier devant Dieu. Donc on va dire, non, moi je prends le camp de Dieu. D'ailleurs, on retrouve ça dans 1 Corinthiens. Nous allons lire ça. C'est très important parce que parfois il y en a aussi qui disent, je prends la part du frère et contre la sœur. Non, nous sommes tous des enfants de Dieu. Ne parlons pas en termes de camp. Voilà. Discutons de l'affaire sans utiliser le terme « je suis pour un tel ». Ah non. On lit ça dans 1 Corinthiens 3, je crois. 1 Corinthiens 3. Donc, c'est l'apôtre nous exhorte à ne pas être pour ceci, pour cela. J'ai oublié le verset, peut-être 11, non. Avant ça.
Verset 4,
voilà.
Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos.
Voilà, c'est ça.
Commence depuis le premier.
Oui, on peut commencer depuis le premier. Oui.
Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé,
voilà.
Mais Dieu a fait croître.
Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas entrer dans des histoires de « moi je suis de Pierre, moi je suis d'Apollos ». Mais ce ne sont pas des gens en conflit. Pourquoi vous parlez comme ça? Vous les mettez en conflit alors qu'eux, ils travaillent ensemble. Donc il faut éviter ce genre de discours. Je pense qu'il y a même ailleurs, c'est dit que moi, qu'il y a des gens qui disent « moi je suis de Christ ». Je crois, hein, j'ai oublié le passage. Donc il y en a qui rajoutent, moi je suis de Jésus. Oh, mais oui, mais qui n'est pas de Jésus? Donc il faut éviter de ce langage-là au milieu de nous. C'est comme si il y en a qui ont choisi quelqu'un, toi tu choisis Jésus. Non, si tu dois dire que toi tu as choisi Jésus, c'est pour toi-même. Ne le dis pas en opposition aux autres. Parce qu'eux n'ont pas dit qu'ils n'ont pas choisi Jésus. Donc faire, c'est toujours créer un camp quand on dit « moi je suis de Christ ». Et eux, ils sont de qui alors? Ça dépend à qui on parle. Si on parle à des branhamistes ou bien à des catholiques ou à des TJ, à des témoins de Jéhovah, oui, on peut dire « moi j'ai choisi Jésus ». Mais vous parlez tu parles avec des frères avec qui tu partages ta foi de quotidienne. Et tu dis, ah non, moi j'ai choisi Jésus, mais lui il a choisi quoi? Ah non, moi je suis pour l'ancien tel, pour le pasteur. Non, il n'y a pas de combat. Ce langage-là, c'est le langage de créer un conflit là où il n'y en a pas. Il n'y a pas d'opposition entre Dieu et Job. Ces gens-là voulaient... ce langage-là, ce n'est pas bon. Évitons ça dans le milieu chrétien. Je veux parler dans la famille de Dieu, lorsqu'on est dans la même famille, évitons. Et même quand on est dans des églises différentes et que ce sont des églises qui, globalement, suivent la Bible, donc on ne doit pas parler le langage « moi, c'est notre église, vous, c'est votre église ». Non, on suit la Bible, on suit Jésus. Voilà, on ne suit pas une église. Voilà, donc on doit éviter ce genre de choses que l'on retrouve là chez Eliou quand il dit « moi je vais prendre la cause de Dieu ». Mais Job n'est pas contre la cause de Dieu, c'est Dieu même qui dit qu'il est intègre. Mais comme j'ai dit précédemment, c'est la facilité, on veut résoudre un problème. Lui-même le dit Eliou, ça prend trop de temps, vous avez mis trop de temps mais vous n'avez même pas pu convaincre Job. Moi je vais le convaincre. Ben, en voulant régler, c'est vrai qu'il est beaucoup plus complet et élaboré, mais il y a toujours ce côté facilité de condamner l'homme, de prendre la part de Dieu qui est apparemment le plus fort et le plus puissant. Donc, bon, en bref, dans chapitre 36, Élihu dit « Dieu est juste, il est bon, il est correct et il sanctionne les méchants, mais cependant, il dénonce le mal chez les justes. Les justes n'ont qu'à se repentir, c'est tout, au lieu de polémiquer. » C'est ça qui va continuer. Dans... Voilà, donc on continue, chapitre 18. Oui, verset
18. Il y a deux questions.
Est-ce que c'est
internet
allumé,
hein? Oui, c'est allumé. Oui. Donc il y a les internautes qui réagissent par rapport à Job 36 au verset 6, lorsqu'il dit « Il ne laisse pas vivre le méchant ». Et il fait droit aux malheureux. Il ne laisse pas vivre aux méchants. Alors que, donc l'internaute dit, alors que beaucoup de méchants sont en vie. Et Dieu dit dans d'autres passages qu'il ne cherche pas la mort du méchant.
Voilà.
Il veut que le méchant voilà, parvienne à la connaissance de la vérité, se détruise.
Oui, donc là, il faut aller dans une autre acception de la vie. Pour Dieu, la vie, c'est la vie éternelle. C'est donc quelque chose que tu possèdes à jamais. Et donc, le méchant ne régnera pas jamais dans ta méchanceté. Donc, Dieu mettra fin à cela, quoi. C'est dans ce sens-là.
Deuxième question. Job a subi une telle adversité de ses proches, entre parenthèses, amis, femmes, qui lui a aussi permis de ne se confier qu'en Dieu seul, car le secours de l'homme est illusoire. C'était voulu par Dieu.
Oui, c'est certainement permis par Dieu, oui. Ok, nous continuons, verset 18.
Verset 18. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse et même toutes les forces que tu pourrais déployer? Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire « Tu fais mal » Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler. Ils la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente? Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement, les troupeaux pressentent son approche.
Voilà, Élihu continue dans sa lancée hein, sur la justesse de Dieu, la vérité dans Dieu, la toute-puissance de Dieu. Il dit « Personne ne peut le conseiller, il connaît tout ». Voilà, donc arrêtez, le nombre de ces années, c'est impénétrable. Dieu est très grand, voilà, donc arrête Job, arrête, tu es en train de dévier. Dieu était très grand, tu n'as pas de leçon à lui donner, ce qui est vrai, c'est juste la façon, hein, voilà, la globalité de son discours, qui, voilà, la finalité qui est de condamner tout simplement Job, c'est ça qui n'est pas bon, mais tout ça est vrai. Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire tu fais mal? Effectivement, Dieu ne peut pas faire du mal. Tout ça est vrai. Et donc, il dit à Job, arrête. Et après, Élihu commence maintenant la description des merveilles de Dieu. Hein, il parle de nuages et de la pluie. Il attire à lui les gouttes. Donc, Élihu est déjà dans la connaissance que la pluie tombe par évaporation, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu des gouttes d'eau qui ont été attirées dans le ciel, ensuite ça retombe. Ça, C'est extraordinaire pour l'époque de saisir ça, que c'est l'évaporation qui produit les nuages, ainsi de suite. Et voici, il étend autour de lui sa lumière, il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Donc, il est en train de décrire la grandeur de Dieu. C'est ça qui va continuer dans le chapitre 37. Il montre combien Dieu a fait des merveilles sur la terre. Donc, ces merveilles doivent suffire à se taire devant lui. Au fait, c'est ce qu'il veut, il veut démontrer. Continuons, chapitre 37.
Mon cœur est tout tremblant. Il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, « Tombe sur la terre !» Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les disperse étincelants. Leurs évolutions varient selon ses desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la place de la terre habitée, sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de métal fondu? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on que je parlerai? Mais quel est l'homme qui désire sa perte? On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux. Lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté, le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable!
Amen.
Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte les regards sur aucun sage.
Amen, amen. J'aime beaucoup cette dernière phrase. Il ne porte les regards sur aucun sage. Vous savez, nous on fait des discours sur terre, c'est des grands discours. La neige vient de ceci, voilà la forme de... ça s'appelle comment les choses qui composent la neige? C'est en forme... Les flocons, voilà la forme des flocons. Enfin, ça, c'est des discours. Le soleil, ça a des millions d'années. Ça, c'est des discours. Dieu, lui, il a créé tout ça. Nous, on est dans les discours. Il ne porte les regards sur aucun sage. Des gens qui étudient les courgettes, qui étudient les vaches. Mais qui a fait la vache? C'est Dieu. Vous l'étudiez. Dieu ne se préoccupe même pas de ces gens-là. Il ne faut pas se laisser troubler parce qu'on va suivre à la télé des National Geographic, je ne sais pas quoi. Les gens sont en train de décrire, d'expliquer. C'est Dieu les prend pour des rigolos. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien créé. Et vous voulez enseigner à qui? À Dieu. Il est écrit, il ne répond pas. Verset 23. Il ne répond pas. Non, il laisse ces gens-là se fatiguer. Darwin est passé, il est dans le tombeau. La terre continue toujours. Les animaux continuent. Et on continue à croire en Dieu, en la Bible et en Jésus. Voltaire, dans le tombeau. sa propre maison. Hein, vous savez que Voltaire était un anti-dieu. Mais 150 ans après, sa propre maison est devenue, a été achetée par quelqu'un, c'est devenu une maison d'édition de Bible. Dieu continue à être cru. Donc il ne répond pas à tous ces gens-là. Pour répondre à ces gens-là, il faut que le Saint-Esprit nous y pousse. Sinon, adoptons la même attitude que Dieu. On les regarde. On rigole parce que Dieu dit, mais c'est moi qui fais tout ça. Dernièrement, j'ai essayé de calculer la longueur d'un nuage qu'on traversait en avion. Parce que ça ne finissait pas le nuage. Donc l'avion est dans le nuage, on n'en sort pas. Vous savez, un avion, ça vole à 900 km/h. Maintenant, imaginez que vous faites des minutes, vous êtes toujours dans un nuage. Donc ce nuage-là devait mesurer environ 30 km. Est-ce que vous rendez compte? 30 km, l'épaisseur d'un nuage. Donc vous continuez la longueur du nuage, ça continue. Donc l'avion vole, et j'attendais que ça finisse. Et j'ai fait le calcul, ça faisait environ 30 km de nuage. Je me suis dit, mais comment ça peut être si grand et rester suspendu au ciel? Si grand, donc si lourd aussi. Hein? Parce que d'où vient la pluie? Ça vient des nuages. Mais prenez rien qu'une piscine d'eau. Hein. Essayez de peser ça. Une piscine. Pesez l'eau qu'il y a dans la piscine. Vous allez voir combien c'est lourd. Maintenant, les nuages, ça contient des milliers de piscines. Mais c'est suspendu dans l'air. Alors, Dieu, quand il entend les gens donner des noms, Altus, Cumulonimbus, Strato, Cumulus, tout ça, et ces gens-là veulent jouer au savant. Mais Dieu dit, mais oh, vous n'êtes rien du tout, vous n'avez rien créé, vous ne faites que parler des discoureurs. Dieu, c'est le créateur, il a fait des merveilles. Ce n'est pas un discoureur. Bien-aimés, ne soyons pas des discoureurs, soyons des gens qui agissons. C'est tout. Imitons notre Dieu. Dieu n'est pas un discoureur. C'est les gens qui parlent à sa place. Ça, c'est Eliou qui est en train de parler à la place de Dieu. Mais Dieu, lui, ne parle pas. Ces gens-là discutent, ils discutent, ils font ils émettent des hypothèses, des théories. Dieu, lui, l'a fait. C'est tout. Sa création parle pour lui. Les vains discoureurs, bien-aimés, laissons-les s'amuser. Nous adorons Dieu, louons le Seigneur. Qui a fait ces choses-là? Qui font que ces gens-là étudient pendant 100 ans, ils ne trouvent pas toujours la solution. Ils ne trouvent toujours pas. Ce n'est pas le sujet. Hein. Si Dieu fait grâce, on aura une émission que tes œuvres sont merveilleuses, où on s'étalera longtemps sur ces choses-là, scientifico-bibliques. Parce qu'il le faut. Il faut que quelqu'un parle pour Dieu, parce que Dieu, lui, ne répond pas. Il est le Créateur, il a tout fait, c'est clair. Et ces gens-là perdent leur temps à discourir. Donc nous lisons, oui.
Question Internet. Donc il y a une question, on demande, les amis de Job et Job lui-même, ils avaient une grande connaissance de Dieu. Est-ce que c'était seulement par révélation?
Je pense, par révélation, c'est-à-dire, oui, je pense que c'était une communauté qui connaissait Dieu, qui en parlait, qui en discutait. Hein. Ils sont vraiment des gens de Dieu. Par révélation, je ne sais pas ce que la personne veut dire. Non, je pense que c'était vraiment une communauté qui connaissait Dieu, qui en parlait. Ce n'est pas une révélation personnelle. Hein. Donc, il y avait des échanges. C'est des gens de Dieu.
Dans l'Ancien Testament, le fait que Job ne soit pas israélite, n'est-ce pas les prémices de l'intégration d'un autre peuple que le peuple juif?
Je ne peux pas assurer que Job n'était pas israélite. Je ne peux pas assurer ça. Voilà. Il n'y a aucun détail là-dessus. S'il y a un livre dont on ignore les détails, c'est Job. Dans tous les livres de la Bible, la date de la rédaction, les liens avec Israël, les liens avec les autres prophètes, tout ça, c'est le livre le plus froid, en quelque sorte, le plus absent, le plus dépourvu des détails pouvant les relier aux autres, à part la connaissance de Dieu, comme on vient de le dire là. C'est la connaissance de Dieu qui est très forte, mais un lien structurel avec les autres livres, avec la loi de Moïse, tout ça, il y en a pas, c'est pas clairement dit. Mais c'est sous-entendu par leur comportement où ils condamnent Job clairement, tout simplement, tu as commis le péché, c'est tout. Donc, mais voilà, c'est un livre, je crois que s'il a été retenu, c'est parce qu'il est profond en sagesse, quoi. N'oublions pas, on appelle ça les livres poétiques, mais ce n'est pas seulement les livres poétiques, c'est des livres poétiques et de sagesse. Hein. Job, Psaume, tout le reste, c'est poétique dans leur façon d'être écrit. Nous, on ne remarque pas trop parce que ça a été traduit en français. Mais les gens qui lisent ça dans leur langue d'origine, ils voient que la structure est très belle et poétique. Les mots sont bien positionnés de manière que c'est beau. Voilà. Nous profitons certainement de la sagesse qu'il y a dans ce livre-là. Il y a vraiment une forte sagesse. Je pense que normalement, le livre de Job ne devrait pas être traité comme nous on l'a fait un peu très vite comme ça. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de sagesse dedans. Il y a certaines phrases sur lesquelles je passe comme ça, mais on devrait s'y attarder. Mais ça fausserait un peu notre démarche qui est de lire la Bible, toute la Bible, d'explorer. Voilà, on n'est pas là pour aller en profondeur, mais voilà, c'est vraiment rempli de sagesse, quoi. Rempli donc, de sagesse.
La personne ajoute, la terre suspendue dans le vide a aussi été découverte tardivement, alors qu'il en est question dans la Torah.
Oui, oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est des choses extraordinaires. Ah, c'est là que la personne parle de révélation. Ah oui, 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 d'accord. Okay.
La révélation, c'est une autre personne. Et
l'ancien Siméon me soufflait ça. Effectivement, oui, ça, c'est la révélation. C'est la révélation que comment ils peuvent savoir ça, mais c'est par la révélation. C'est par la révélation de Dieu qu'ils ont pu savoir des détails que nous on a que les humains découvrent scientifiquement que très tard. C'est bien de savoir par exemple que les humains pensaient que la Terre était plate. Hein. C'est bien de savoir tout ça parce que aujourd'hui on veut faire passer les humains comme des gens très 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 forts, très intelligents. Mais si on vous raconte tout ce qu'ils croyaient avant, on va dire ah bon, on vient vraiment de loin. Les humains pensaient que la Terre était plate. J'en ai déjà parlé une fois. Quand on appelle au Maroc Atlas, les monts Atlas, Atlas c'est un dieu, voilà, qu'on pensait que c'est lui qui portait la Terre comme une assiette. Hein. Mais aujourd'hui, bon. On est parti à la Lune, on se croit tout permis. Pas du tout, on a rien fait. Hein. Parce que la Lune peut être considérée comme une parente de la Terre, c'est collé presque à la Terre. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses voilà, qu'on n'a pas vues. On n'a vu même pas 0,00001% de l'univers. Voilà. Les gens disent même que nous connaissons plus l'espace que les fonds des océans. Déjà, la Terre même, vous n'avez pas épuisé. Les fonds des océans, nous ne connaissons que 15%. Bon, alors arrêtons. Hein, comme c'est écrit dans Psaume 46, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Quoi. Arrêtons. Bien-aimés, vous savez, avant nous, on perdait notre temps à débattre sur ces choses-là, à débattre, à vouloir expliquer. Mais là, Dieu nous montre qu'il ne répond pas. Si vraiment tu dois débattre, il faut que ce soit le Saint-Esprit. Pas parce que tu veux aider, convaincre les gens, non. Donc, tu parles par l'influence de l'esprit, pas avec des mots semblables aux autres, mais avec les mots de Dieu. Parce que c'est tellement évident, Dieu lui l'a créé, ces gens-là, c'est des discoureurs. C'est tout. J'aime quand il dit aussi, on ne peut pas regarder le soleil. Quoi. C'est vrai, fixe le regard. C'est écrit, voilà, c'était dans toujours ce chapitre. Qui peut regarder le soleil et rester fixé à regarder le soleil? Rien que le soleil, l'une des plus petites étoiles de notre galaxie, tu ne peux pas regarder ça et tu veux regarder Dieu. Voilà quoi, soyons tranquilles. Et maintenant, Dieu lui-même va parler. On arrive à des instants mémorables. Dieu lui-même va parler au chapitre 38. Nous l'écoutons.
Chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, sans terrain comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes? Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né. Et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre? Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'il abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace, et qui enfante le frimas du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée? Noues-tu les liens des Pléiades? Ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils, te disent-ils? Nous voici. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble?
Ah, vraiment, il y aurait beaucoup à dire sur ce chapitre où Dieu démontre sa grandeur dans son règne, son contrôle sur la création inanimée, c'est-à-dire les éléments, son contrôle sur les éléments, sur la pluie, sur les nuages, le tonnerre, la grêle, il dit les étoiles, la création inanimée et les éléments, quoi. Il dit, est-ce que c'est toi qui relie les étoiles? Parce que vous savez, il y a une carte des étoiles. C'est-à-dire que toutes les générations peuvent contempler la constellation d'Orion, la grande ours. C'est-à-dire que c'est un assemblage d'étoiles qui garde cette forme-là. Ça fait des milliers d'années. Alors Dieu dit à Job, comment ça arrive à garder cette forme-là? Qui les relie? Est-ce que tu connais toutes ces lois-là? Est-ce que tu es arrivé là où je garde la grêle, la neige? Chaque détail que nous vivons sur terre, concernant les éléments, c'est-à-dire la neige, la pluie, le vent, tout ça, bien aimé, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les gens vous diront qu'il n'y a pas deux flocons de neige qui se ressemblent. Voyez l'étendue de toute la neige qu'on peut voir en France, mais chaque flocon est différent. Rien qu'à y penser, ça donne le vertige. Et c'est ça la réponse de Dieu à Job. Il dit, Job, tu veux te mesurer à moi? Tu veux te mesurer à moi? Qui peut, par ses discours sans intelligence, obscurcir mes desseins? En fait, nos discours sont sans intelligence. Il n'y a qu'à regarder, à faire la comparaison entre nous et les éléments et la création inanimée. Dieu commence par ça. Regarde toi, regarde la création, les étoiles, la lune, la terre, tout ça, maintenant les éléments, la pluie, le vent, compare-toi à tout ça, ben, t'es rien du tout. On a vu comment un petit volcan en Islande a perturbé l'aviation mondiale. Un petit volcan. Hein? Il paraît qu'en Indonésie, bon, nous on n'a jamais vu ça, mais c'est l'histoire qui raconte ça. Il y a eu une éruption, je crois que ça s'appelle le Krakatoa, un volcan. Donc, quand ça a connu cette éruption-là, ça a créé pendant 2 ans une certaine obscurité sur la Terre. 2 ans. Un volcan. Donc, Dieu dit, mais compare-toi à tout ça et sois petit. J'aime beaucoup le monsieur à la croix. Il s'est comparé à Jésus. Il s'est comparé à Dieu. Au début, on parle. Ah voilà, ce n'est pas normal. Si tu es le Messie, libère-nous. Je te conteste. Mais l'autre, il s'est comparé lui-même. Quand on joue à l'arbitre, c'est trop facile de citer les meilleurs joueurs. C'est trop facile de siffler. Mais quand toi-même tu es joueur, c'est là que tu comprends que l'autre équipe est sérieuse et forte aussi. C'est trop facile de jouer à l'arbitre et de parler de Dieu. Dieu dit, mais quand moi j'ai créé tout ça, tu étais où? Arrête, je suis Dieu. Et il continue, chapitre 9.
Chapitre 39. Chasses-tu la proie pour la lionne?
Là maintenant, nous sommes dans la création vivante. 38, c'était la création inanimée, les étoiles, tout ça, même si ce n'est pas totalement inanimé. On veut dire par là qu'ils n'ont pas comme une vie comme nous. Voilà. Et la création inanimée et les éléments. Et là maintenant, Dieu va dire à Job, je gère même la création vivante.
Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes. Il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air? L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit en avant. Et de loin, il flaire la bataille. La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards, ses petits boivent le sang. Et là, où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'Éternel s'adresse à Job, dit, je reprends, l'Éternel s'adressant à Job, dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. » Ah,
bien-aimé, qu'est-ce que tu peux dire devant ça? Qu'est-ce que tu peux dire? C'est vrai, bien-aimé, on a des souffrances. Hein? Une petite chaleur, on commence. Ah oui, mais il fait trop chaud. Il y a 6 mois, vous disiez qu'il faisait trop froid. C'est vrai qu'on a des murmures, mais quand maintenant on te dit, mais attends, regarde, qu'est-ce que toi tu peux dire à celui qui a fait tout ça? Calme-toi, tais-toi. Je pense que c'est ça qui est, je pense que c'est ça qui est la base de la vraie conversion. C'est-à-dire que quand toi, tu te compares à ce que tu vois à Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans Romains 1, 18. La colère de Dieu se manifeste sur tout homme qui cache injustement la vérité, qui rend la vérité injustement captive. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut savoir de Dieu est évident quand on envisage sa création. Au fait, c'est tellement évident la grandeur de Dieu. C'est parce qu'on oublie, nos yeux sont fermés. Et là, par le chapitre 30, depuis la préparation aussi de notre ami Eliou, il y a la préparation d'Eliou sur les merveilles de Dieu, et Dieu vient appuyer 38, 39, Job est KO. Il dit, qu'est-ce que je peux dire? Qui suis-je devant tout ça? Rien que pour ça, bien-aimé, nous ne sommes pas en train de dire qu'on est content de tout, mais rien que lorsqu'on observe tout ça, l'homme normal doit se taire. Si tu ne te tais pas, il y a un problème. Il y a un problème. Je répète bien, ce n'est pas que nous nous soyons parfaits et que nous n'ayons pas parfois des murmures. Toutefois, face à la création qui nous est présenté, on ne peut rien dire. On garde nos murmures dans le cœur, priant que ça se disparaisse, mais on n'a rien à dire par rapport à cela. Donc nous allons prier que le Seigneur nous ouvre les yeux, parce que là, nous avons une activité après ça. Donc, excusez-nous les bien-aimés internautes. Donc, on n'ira pas jusqu'à 20 heures. Ça sera la prochaine fois. Là, on s'arrête parce qu'on a une activité après ça. Parce qu'après cette activité-là, il y a encore le Zoom à 21 heures. Donc, ce qui fait que vous participez à tout ça, au rythme de la vie de l'Église. Voilà. Donc, on va prier que le Seigneur nous aide à nous humilier devant lui. On va prier afin que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on voit la magnificence de la création, inanimée ou animée, quoi. Voilà, qu'on voit tout ça. Regardez les doigts, hein, les doigts, les orteils de bébé. Ah, c'est magnifique, hein. Donc, quand on voit tout ça, on dit, mais bon, on se tait, quoi, c'est tout. Que Dieu vraiment nous amène à ça. Et demandons pardon à cause de nos murmures et prions que Dieu les efface. Seigneur, c'est vrai qu'il y a plein de murmures dans mon cœur, mais je te demande pardon pour cela, Seigneur. Il y a ceci que je ne comprends pas, telle chose que je ne comprends pas encore. Mais qui suis-je? Qui suis-je devant tant de magnificence, devant tant de grandeur, devant tant de beauté, devant tant de gloire? Oh Seigneur, tes œuvres sont merveilleuses. Tes œuvres sont grandes. Ça nous fait taire, Seigneur. Purifie nos cœurs, que l'orgueil nous quitte, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux chaque jour face à la création, pour que notre adoration et notre louange fassent partir les doutes et les murmures. Ouvre-nous les yeux chaque jour. Ouvre mes yeux, que je vois la gloire du roi. Je chante au ciel en élevant la voix. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, que je vois la gloire du roi. Je chante au ciel en élevant la voix. Amen, Seigneur, merci de nous ouvrir les yeux. Que cela nous apaise, nous purifie et conforte notre foi à jamais, au nom de Jésus. Merci encore pour tout. Amen.